Vous écoutez France Culture.
L'essai du jour, la revue du jour, Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
L'essai du jour, Georges Jüttner, papa, maman, le juge et moi, c'est le travail d'un pédopsychiatre expert auprès des tribunaux, publié chez Gallimard.
Voilà, c'est un document exceptionnel, à ma connaissance, une démarche complètement inédite. L'auteur pédopsychiatre et psychanalyste est expert judiciaire depuis 1980. Il revient sur son expérience et en tire les leçons pratiques et théoriques, tout en produisant plusieurs rapports complets ou des extraits d'expertise d'enfants âgés de 9 à 17 ans dans pratiquement tous les cas de figure où ils sont confrontés à la justice à l'occasion du divorce de leurs parents en tant que victimes d'une agression ou comme auteurs d'un délit. L'expertise encore dite médico-psychologique, pour éviter le terme psychiatrique qui peut faire peur, est réclamée par le juge pour éclairer une décision qui va engager l'avenir de l'enfant et pour établir avec davantage de certitude où se situe son intérêt, en particulier le juge aux affaires familiales, ou encore pour révéler une dimension du dossier inconnu du juriste jusque-là. Tout au long du livre, on peut observer le parfois difficile ajustement des deux approches, judiciaire et psychiatrique, ce qui fait dire à l'auteur qu'un travail de formation des magistrats reste à entreprendre pour leur faire accepter les fondamentaux de la profession de pédopsychiatre ou de psychologue d'enfants. Les interventions de l'expert missionné sont pourtant bien encadrées. Celui-ci évite autant que possible le jargon, mais parfois la première difficulté surgit dans l'ordre du langage qui réfère à des registres différents. À un avocat qui lui demande quand il compte procéder à l'audition d'un enfant, le pédopsychiatre répond qu'il ne sait faire que des entretiens, pas des auditions. Sa mission est bien définie, mais lorsque le juge le mandate pour, en ordre dispersé, examiner l'enfant et les parents, puis les entendre, il note que pour lui, il n'y a aucune différence entre examiner et entendre. Et dans ce cas précis, l'expertise pédopsychiatrique ne peut se transformer en une expertise d'adulte déguisé. Le praticien précise alors que la rencontre avec le parent a permis de réaliser son examen. Il arrive trop souvent que le juge des enfants demande à l'expert de voir les parents sans l'enfant, notamment dans le cas de la justice pénale. Georges Jüttner préfère alors se récuser, comme lorsque le juge aux affaires familiales lui adresse un seul des deux parents, qui peut alors laisser libre cours à sa version sans la moindre contradiction. En matière pénale, lorsqu'un mineur devient délinquant, il n'est plus vraiment considéré comme un enfant et ses parents sont exclus de l'examen, ce qui tend à nier les données fondamentales de l'identité psychique liées à la structuration par le modèle parental. Et s'il est demandé à l'expert de préciser si le sujet est accessible à une sanction pénale, il ne peut que constater que la sanction pénale ne fait pas partie de ses outils thérapeutiques. Par contre, la reconnaissance de sa culpabilité permet au jeune l'inscription psychique des faits commis, la reconnaissance, voire l'intériorisation des interdits structurants, et peut ainsi favoriser une reprise du processus psychique de structuration de la personnalité. En matière de langage, de parole et surtout de silence, la psychanalyse semble donner une longueur d'avance et comme une sorte de profondeur de champ. Même si l'auteur reconnaît qu'il n'y a rien de plus étranger à sa méthode et à son éthique que le lourd appareil judiciaire de l'obtention de l'aveu, alors que la technique analytique est non directive et caractérisée par une absence totale de jugement, voire ce que les psychanalystes appellent une neutralité bienveillante dans le cadre de l'expertise, elle peut utilement apporter son éclairage. Le livre en donne de nombreux exemples. Je l'ai dit, le docteur Jüttner est également psychanalyste, ce qui lui permet aussi de porter un regard critique sur les pratiques en matière d'expertise psychomédicale, notamment sur la manière dont certains experts sont guidés et à leur insu alliés né par un modèle de personnalité ou de structure familiale, ce que les psychanalystes appellent le moi idéal, une image parfaite qui les amène à sortir de la neutralité requise. Il suggère que les praticiens publiquement connus pour leur engagement en faveur d'une cause liée à la défense des enfants ne soient plus désignés comme experts. L'auteur reconnaît l'importance des associations qui militent, informent et soutiennent dans le cadre de la défense des enfants sur les problèmes liés à l'inceste, aux violences, aux handicaps et à tant d'autres, mais il met en garde contre le risque d'altération du jugement de l'expert appelé à fournir des éléments de preuve. Dans l'affaire d'Outreau, par exemple, l'un des principaux experts était membre d'une association très active dans le domaine de la pédophilie. En matière de malentendus entre les lexiques et les pratiques de chacun des acteurs de la scène judiciaire, L'auteur cite l'histoire touchante de Thomas qui aime à rendre visite le samedi après-midi à son père, devenu SDF et alcoolique après son divorce et suite à une maladie mentale. L'enfant de 10-11 ans, parfaitement autonome et très à l'aise dans son équation identitaire, explique à l'expert qu'il sait bien voir quand son père va mal. Il ne marche plus droit, dit-il, et il dit n'importe quoi. Il met fin à la visite et rentre alors chez lui. Mais sa mère, qui a repris son nom de jeune fille et s'appelle désormais Madame Bien, affirme savoir ce qui est bien pour lui et souhaite supprimer les droits de visite et en sourdine priver Thomas jusqu'au nom du père, qui est également le sien. Le psychanalyste qui sommeille dans l'expert sait bien que le nom du père est un puissant soutien structurel et il préconise de maintenir ces 2 ou 3 heures de visite hebdomadaires. Le juge ne l'a pas entendu de cette oreille, il s'en est tenu aux critères sociaux habituels, dénouant par sa décision le lien ténu mais dense qui unissait les deux comètes en tangente et constituait sans doute leur fragile relation à la vie sociale.
Voilà donc Georges Jüttner, le travail d'un pédopsychiatre expert auprès des tribunaux, c'est chez Gallimard. Et la revue du jour, c'est la revue Langage et Société, numéro 141, le dossier jeune et par les jeunes.
Voilà, un dossier coordonné par Michel Ozano et Caroline Juillard. Un dossier donc qui questionne l'usage des catégories jeunes et par les jeunes dans les études sociolinguistiques. C'est l'angle adopté par cette revue. En se gardant évidemment d'essentialiser tant la catégorie jeune que les dits par les jeunes, parfois considérés comme des variétés à part entière, dont on voit d'ailleurs qu'elles peuvent se transmettre de génération en génération, comme le verlan. Alors après avoir problématisé ces questions, les contributions développent ou illustrent divers aspects en relation à des contextes sociaux et sociolinguistiques urbains différents, comme la contribution de Julie Lefort, qui s'attache aux nouvelles pratiques linguistiques dans le Dongxiang, dans le nord-ouest de la Chine, ou bien cette enquête de Michel Ozano, Mallory Leclerc, Messebel et Caroline Juillard sur l'élaboration et la théâtralisation de ce parler jeune au cours d'une séance de formation continue.
Merci Jacques, 6h42 minutes.